Vous écoutez France Culture.
France Culture, 19h, passé de 12-15 secondes, retour dans le grand studio 168 de la maison de la radio, Soft Power, jusqu'à 20h. Bonsoir à tous. Le président de la République l'a dit cet après-midi lors de son premier grand meeting des candidats à Marseille. Je pars en campagne sans artifice de communication. Dont acte, la communication, mais aussi les médias, les nouvelles technologies, le buzz, Twitter. C'est le sujet du magazine des industries créatives et des médias de France Culture ce soir, Soft Power, en direct jusqu'à 20h. Au sommaire de Soft Power ce soir, plusieurs séquences. Dans un instant, nous parlerons de la crise de la distribution de la presse française avec Camille Neveu, journaliste média au JDD. Ce sera le focus de Soft Power ce soir. Juste après, Marco Tinelli, fondateur de l'agence Full Six, décryptera pour nous les nouvelles formes de marketing et de communication accélérée, synchronisée, interconnectée. Avec Delphine Minoui, nous parlerons en seconde partie d'émission des médias et des nouvelles technologies en Syrie, et notamment du rôle des journalistes citoyens clandestins syriens. Delphine Minoui, correspondante du Figaro au Moyen-Orient, sera en direct avec nous depuis Beyrouth. Benoît Raphaël est un entrepreneur, observateur et acteur des nouvelles technologies. Il nous rejoindra également dans Soft Power tout à l'heure, et avec lui, ainsi qu'avec nos chroniqueurs et invités, nous terminerons cette émission à 19h45 par un débat. Le débat du jour, du soir, autour de Twitter et du rôle accru de ce réseau social en pleine expansion. Je vous rappelle que cette émission est justement et précisément en live tweet sur Twitter au mot-clé Soft Power. En un seul mot, vous avez aussi notre blog à consulter si vous le souhaitez, soft-power.fr. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast. C'est gratuit sur le site franceculture.com ou sur iTunes. Jusqu'à 20h, vous êtes dans Soft Power sur France Culture en direct. Bonsoir Camille Neveu.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au JDD. Nous commençons cette émission avec le focus, une séquence focus ce soir consacrée à la distribution de la presse en difficulté et en tension en France. Comment est-ce que ça fonctionne d'abord, peut-être pour repréciser le système, comment ça fonctionne le système de distribution de la presse en France?
Alors Frédéric, en France, les journaux sont distribués par deux messageries qui sont régies par la loi Bichet d'après-guerre, Presstalis, anciennement connue sous le nom de NMPP.
Et nouvelle messagerie, la presse parisienne.
Qui s'occupe de la distribution de 70% des quotidiens et des magazines sous la forme d'une coopérative des éditeurs, et les messageries lyonnaises de presse qui ne gèrent, elles, que des magazines. Alors cette distribution, comme vous l'avez dit, n'est pas sans difficulté. Les problèmes d'approvisionnement sont nombreux. Aujourd'hui, un client sur cinq ne trouve pas chez son marchand de journaux ce qu'il est venu y chercher. Et cette distribution repose néanmoins sur un principe, celui de la solidarité entre les éditeurs. Autrement dit, la bonne santé des magazines finance le déficit des quotidiens qui, eux, assurent du passage tous les jours en kiosque.
Alors ce système dit de solidarité, c'est pas l'avis que partagent notamment un certain nombre des acteurs, je pense au groupe Mondadori, qui remet en cause, et il n'est pas le seul, ce système.
Effectivement, depuis plusieurs semaines, le groupe Mondadori est accusé d'avoir attenté à cette règle de solidarité. Il a annoncé que plusieurs de ses titres, dont Biba et Grazia, de grosses publications, quitteraient Presstalis pour les messageries lyonnaises de presse au nom de la libre concurrence. C'est aussi le cas du Point. Problème, cela arrive à un moment crucial pour Presstalis, déficitaire, qui a entamé en 2010 un gros travail de restructuration avec tous les éditeurs. Mais certains préfèrent aller là où ça coûte moins cher. Ernesto Mori, le PDG de Mondadori, espère économiser jusqu'à 1 million d'euros en passant à la concurrence.
Alors il y a un risque de crise pour le secteur, il y a aussi une urgence de modernisation, des plans ambitieux de réforme ont été présentés, on en est d'ailleurs à plusieurs plans. Auparavant c'était Rémi Filin, aujourd'hui PDG de France Télévisions, qui dirigeait le Presstalis, donc l'acteur. Des tensions très multiples, souvent on se dit est-ce qu'on ne pourrait pas trouver ces journaux ailleurs que dans les traditionnels kiosques, pourquoi pas dans un restaurant, dans un café, dans des villages où souvent le dimanche on a du mal
on le sait,
à passer JDD. Pas seulement pour le JDD, mais aussi pour le JDD. Y a-t-il un risque assez global, disons, de crise pour l'ensemble de ce secteur ?
Effectivement, si Prestalis coule, qui représente quand même 70% des magazines et des quotidiens, si Prestalis coule, c'est tout le secteur de la presse qui risque de couler avec elle. 29 000 points de vente, vous l'avez dit, mais aussi les titres et les imprimeries. Alors Mondadori a calmé le jeu vendredi soir en annonçant qu'il maintenait la distribution de certains de ses titres, donc Closer et Science et Vie, chez Prestalis. Et de nouvelles réunions se tiendront cette semaine pour essayer de dénouer le conflit.
Alors, il y avait dans le JDD, justement, sans vous citer obligatoirement, une interview des principaux directeurs généraux du groupe Amaury ainsi que du directeur général du groupe Bayard, qui essayent à la fois de calmer le jeu et en même temps de bien saisir le problème.
Et qui tire la sonnette d'alarme, qui explique que depuis longtemps, ce système est basé sur la pluralité de l'information et qui dit plus de presse partout en France, dit plus de pluralité de l'information.
Camille Neveu, journaliste, justement au JDD. J'accueille maintenant Marco Tinelli. Bonsoir.
Bonsoir,
monsieur. On vous avait reçu il y a quelques années pour parler de Full Six, l'agence que vous avez créée, fondée, que vous dirigez, une agence fondée en 98. Donc ça fait quoi, 13 années, 14
ouais,
années à peu
quasiment
près.
Quasiment la 14e, ouais. Non, je n'ai pas.
Donc nous allons en parler ce soir aussi, mais on vous invite plus particulièrement pour la parution d'un ouvrage qui est d'ailleurs lié à Full Six. Vous en parlez beaucoup à travers le livre qui s'intitule Marketing synchronisé, qui changeait radicalement pour s'adapter aux consommateurs de l'ère numérique. C'est publié cette semaine chez Erol. Alors peut-être, on va essayer de résumer un livre qui est assez complexe, assez gros, avec beaucoup de termes en anglais d'ailleurs, on y reviendra. Mais que se passe-t-il fondamentalement pour résumer votre point de vue et où va-t-on selon vous, dans le secteur disons, de la communication et en l'occurrence aussi de la publicité et du marketing, à partir de ce livre, mais aussi de votre expérience de directeur d'une agence importante de publicité française.
Waouh. Donc non, le livre en fait raconte une histoire avec le moins de mots anglais possible. Donc si vous en avez détecté, c'est que...
Il y en a un à chaque titre pratiquement. Mais vous savez, c'est pas moi qui animant une émission qui s'appelle Soft Power qui vais obligatoirement vous le reprocher. Mais continuons.
Et qui part du constat simple, qui dit il y a eu plusieurs. Les nouvelles technologies sont arrivées en plusieurs vagues. Et à chacune de ces vagues, il y a la vague Google, la vague Facebook, la vague du mobile. Et les consommateurs s'emparent de ces vagues, s'en servent d'une façon que personne n'avait prévu du tout, changent totalement leur mode de vie, leur mode de consommation, leur mode d'interagir avec des amis, donc vraiment leur mode de vie. Et sur une échelle qui est assez difficilement perceptible par la plupart des élites en France ou en Europe, c'est-à-dire c'est vraiment des phénomènes de masse. Et face à ça, les entreprises sont un peu prises de court parce qu'elles ont du mal à suivre le rythme de ce changement.
Donc c'est les consommateurs qui engagent la révolution, qui la précèdent.
Voilà, et c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé avant.
Et au fond, le marketing et les agences qui suivent, comme ils peuvent.
Voilà, enfin, Full Six le fait bien sûr très bien, mais sinon par ailleurs, il y a ce décalage qui s'installe et qui est de dire, voilà, les consommateurs partent, font des choses, et le monde des médias, le monde des agences... ont du mal, et le monde des annonceurs, de la publicité, a du mal à réagir par rapport à ça, en tout cas dans la même fluidité, la même rapidité. Et en fait, ça pose quand même des questions culturelles, enfin de culture d'entreprise, d'adaptation au changement, d'intégration de la technologie avec la création, qui sont des questions qui sont à la fois culturellement et industriellement complexes. Enfin, pas simple.
Alors vous dites notamment, je vous cite, la publicité inventée par les Mad Men, référence à la série télévisée américaine, bien sûr, les Mad Men à l'âge de la télévision de masse, est à bout de souffle. Donc c'est un système complètement différent.
Bah, radicalement alternatif. Enfin, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, enfin, je pense que personne ne conteste l'idée que sur une quinzaine de spots dans une coupure pub à la télévision, si par hasard vous regardez la télévision, ce qui n'est pas déjà à gagner, mais sous réserve que vous la regardiez, il y en a peut-être deux ou trois qui vous concernent, au mieux, la collection d'une quinzaine d'affilés rend le sujet totalement, inaudible. aujourd'hui, il y a des moyens pour être plus pertinent, plus intelligent, offrir du service plutôt que dire, faire plutôt que dire. Donc, faire changer de rôle à la marque et ne pas s'insérer dans la vie des gens en, disant, en criant, en disant, vous savez, je suis là et j'ai une promotion pour toi. Mais d'aller vers les gens avec une offre de service à valeur ajoutée, relationnelle. Prendre les gens pour des gens comment dire, un peu plus matures et essayer d'inscrire un contrat relationnel que les nouvelles technologies permettent. Parce que si on subit l'évolution du monde qu'a apporté les nouvelles technologies, sans en prendre les bénéfices, bah, les marques du coup, se trouvent à jouer énormément en défense. Et c'est ce qui se passe beaucoup. Enfin, je pense que pas mal de crises d'entreprises de grande consommation, on dit que c'est la crise, la récession, la crise financière, mais elle est aussi due à cette espèce de crise de mode de consommation où les gens peuvent comparer, choisir, sont devenus totalement libres et donc cassent les modèles anciens.
Alors, on peut comprendre qu'en tant qu'agence, vous tentiez d'analyser ce qui va arriver et ce qui est en train de se passer. Mais quand on regarde le marché publicitaire actuel, quand on se promène en France, on voit des 4x3. Quand on écoute RTL, on entend des publicités assez traditionnelles ou d'autres chaînes. Hein, ce n'est pas une que je cite spécifiquement. Dans la presse quotidienne régionale, la publicité est encore très traditionnelle. Donc, le marché de la publicité, il n'a pas totalement changé. Ce dont vous parlez, c'est la marge. C'est une petite partie pour l'instant de ces secteurs. Et est-ce que vous pensez que ça va aller au-delà et au fond tout changer, y compris ce que je viens d'évoquer.
C'est le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est de dire en fait, les consommateurs ont changé d'une telle façon qu'il n'est pas à la marge. Aujourd'hui, les investissements sur les médias numériques, ça pèse 12,5% des investissements publicitaires. Ça représente quasiment un tiers de la consommation média, quasiment 80% des choix de produits sont faits sur des comparateurs en ligne, grâce aux nouvelles technologies, etc. Ça représente un temps dans la vie des gens qui est supérieur à la télévision, mais ça ne pèse que 12,5%. Et ça, c'est la résistance au changement qui crée ce décalage-là. J'insiste, pardon, sur le fait que...
Ça vous fait tousser. Hein.
Oui, c'est plus le rhume, en fait.
C'est un peu les agences de publicité qui toussent aussi à travers vous. Mais...
Il y a un peu de ça, mais... Non, le point de fond, c'est de dire que les nouvelles technologies ne changent pas. Il ne s'agit pas de faire plus de publicité sur Internet, hein, qu'on soit bien d'accord. Il s'agit de changer la façon dont on fait du marketing de la publicité en y incluant l'Internet. Mais c'est changer aussi la façon de faire de la télévision, de faire de la presse. La presse devient de plus en plus numérique. Le sujet dont vous parliez précédemment, je pense qu'on est un extrêmement bon exemple. La télévision va devenir connectée. La radio est numérique, bientôt connectée elle aussi. Et donc, en fait, il ne s'agit pas de dire faites plus de bannières et faites plus de sites web. Enfin, bien évidemment, il faut le faire. Enfin, mais ce n'est pas le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est comment est-ce qu'on change de façon de faire du marketing à une époque où les magasins, la voiture, la télévision deviennent connectés et permettent d'être plus intelligents. Donc, est-ce que les annonceurs veulent investir plus sur l'intelligence relationnelle ou veulent continuer à mettre l'essentiel de leurs moyens sur du muscle qui sert à de la répétition? Le problème de fond est celui-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de répéter 8 fois à une personne quelque chose pour qu'elle le comprenne? Ou est-ce qu'il ne suffit pas de le dire 1 ou 2 fois, mais d'une façon différente, adaptée et pertinente?
Camille Neveu.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression non plus que c'est un problème générationnel et que cette fameuse génération Y, née entre 1980 et 2000, rompue aux nouvelles technologies, pourrait, en entrant dans l'entreprise, changer les choses et casser les codes traditionnels? Est-ce que ce n'est pas justement déjà un peu le cas?
Oui, mais oui, bien évidemment, c'est un sujet générationnel, mais je ne pense pas qu'un sujet générationnel soit un sujet d'âge, en fait. Je pense que c'est un sujet culturel. Je pense qu'aujourd'hui, la jargonite, et c'est pour ça que... Bref, la jargonite et le fait que beaucoup de gens aient rendu ça très obscur fait qu'il y a beaucoup de dirigeants qui ne comprennent pas très bien, et qui voient très bien qu'il y a un sujet à traiter, mais qui ne voient pas très bien comment l'adresser. C'est aussi l'objet du livre, de dire, voilà, c'est quand même pas si compliqué que ça. Oui, il faut un changement culturel profond. La génération Y qui participe, enfin, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas demain que la génération Y va diriger Renault, SFR et Total. Et c'est pourtant là que se prennent les grosses décisions de comment j'investis, comment je structure mon business model, où est-ce que je mets les services, où est-ce que je mets mon argent. Donc, on ne peut pas attendre un phénomène générationnel, parce que pour le coup, on va être très, 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 très en retard. Donc, le point de fond, c'est de dire il y a un besoin, pas d'éducation, mais d'éclaircissement et de pédagogie auprès des grands patrons qui, eux, peuvent prendre des décisions structurelles et dire oui, il est le temps de changer. Parce qu'ils comprennent bien que les modèles traditionnels publicitaires dont vous parliez, de la 4x3, exclusive ou la presse code, chacun d'entre eux a beaucoup de sens, mais en fait ne fonctionne plus.
Alors, est-ce que pour une agence, somme toute petite, même si elle est importante comme Full Six, par rapport à des grands groupes français ou essentiellement internationaux, est-ce qu'il n'y a pas aussi nécessairement une volonté un petit peu de faire bouger le système pour trouver votre place et donc le faire là où par la nouveauté qu'est précisément le numérique et les réseaux sociaux, par
c'est,
exemple.
C'est non seulement une volonté, mais c'est exclusivement notre raison d'être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, vous prenez un groupe comme le groupe Publicis ou le groupe Havas, c'est des success stories absolument incroyables. Elles sont nées à l'ère de la télévision, elles fonctionnent. Si le modèle ne change pas, si quelqu'un ne souhaite pas un changement.
Les Mad Men français, finalement.
Exactement. Et enfin, 2 groupes sur 5 en France, c'est quand même pas mal. Enfin, c'est un beau succès pour.
Internationaux en plus, très, très puissant. Hein.
Et Full Six, c'est une alternative à ça en disant voilà, il y a un groupe de nouvelle génération qui propose une approche qui est radicalement différente et qui naît du principe assez banal de dire c'est plus facile de créer une boîte qui reste petite, hein, on est juste un millier de personnes. Par rapport à des géants, mais c'est plus facile de croître différemment que de faire une révolution industrielle dans une entreprise de 50 000 à 100 000 personnes. Donc oui, enfin c'est pas uniquement une volonté, c'est juste notre réelle raison d'être.
Raison d'être. Alors si on rentre maintenant dans ce qui se passe, je disais, que se passe-t-il, que voyez-vous au fond, Marco Tinelli, qui est fondateur et dirige l'agence Full Six, que va-t-il se passer? Vous parlez d'accélération, vous dites même l'accélération de l'accélération, donc on en était resté à la première accélération, ça va encore plus vite. Et puis, vous déclinez tout un tas de nouveaux phénomènes qu'on connaît. Et c'est là où, au fond, j'aimerais vous voir peut-être un peu les mettre en perspective. Alors, il y a d'un côté les applications qui vont se multiplier, la synchronisation. On parle de la participation, il y a les échanges, peer-to-peer et autres, l'hypertexte, l'agrégation de contenu, la désintermédiation, l'hybridation, la contextualisation, le collaboratif. On peut citer tout un tas de mots qui, tous, d'une manière différente d'ailleurs, s'adaptent à un certain nombre des phénomènes en cours. Mais comment est-ce que tout ça va se structurer? Et vous le faites dans le livre à travers ce qui vous paraît les évolutions de ce système.
Je pense qu'au cœur de chacun de ces phénomènes, il y a un concept central qui est celui de la pertinence, qui est de dire voilà, aujourd'hui
on dit le sens dans le livre.
Du sens et de la pertinence, qui est on est rentré dans l'âge où on peut interagir avec des milliers, des millions de personnes en leur apportant individuellement des messages et des contenus qui ont de la valeur ajoutée pour eux et du sens pour eux individuellement.
Ils sont plus intelligents, entre guillemets. Vous parlez aussi d'agilité plusieurs reprises dans le livre.
On peut être plus agile parce qu'on peut mesurer si ça fonctionne, si les gens sont contents ou non, s'ils accrochent ou non, et donc changer rapidement. Donc je pense que la vraie bataille, quel que soit le canal, qu'il soit collaboratif ou mobile, c'est de dire est-ce que je suis capable de construire cette intelligence centrale, qui veut dire construire des bases de données, enfin, qui veut dire connaître les gens de façon massive. Et est-ce que je suis capable, du coup, d'adapter mon discours et d'avoir des choses différentes à dire à toutes ces personnes? Parce que ce n'est pas évident. Quand vous avez construit une marque depuis 40 ans qui sait dire une chose très bien à la télévision, être capable d'avoir un discours différencié sur des milliers ou des centaines de profils différents, ce n'est pas quelque chose qui est simple. Donc, les deux gros piliers, c'est le sens, c'est dire... Quel est le sens que ma marque peut apporter aux gens? Quel est le rôle que j'ai à jouer?
Et l'autre, la synchronisation.
Et l'autre, la synchronisation, qui est dire comment est-ce que je sais reconnaître une personne.
Mais ça, c'est la technique. Au fond, c'est de la technique pour une large part. Deuxième volet.
Oui, c'est une technique.
Pour le faire massivement.
C'est beaucoup plus analytique. C'est comme si vous me disiez Google, c'est de la technique. Google, c'est de la technique, mais néanmoins, pour avoir un moteur de recherche qui sait répondre à toutes les questions du monde, c'est une technique qui se mêle d'un peu de.
C'est d'ailleurs le PDG de Google France, Jean-Marc Tassetto, qui a préfacé votre livre. Camille Neveu.
Est-ce que cette communication digitale, elle ne va pas être justement l'occasion de réveiller un peu les publicitaires traditionnels avec des publicités plus audacieuses, plus créatives? Voilà, on a beaucoup effectivement de campagnes qui sont un peu plan-plan, un peu traditionnelles. Est-ce que sur le net, on est plus innovant?
Je pense que par défaut, on est obligé de l'être. C'est-à-dire que lorsqu'on mesure les choses et lorsqu'on voit ce qui marche, on ne peut plus continuer à jouer au Rubik's Cube créatif qui est de dire « Attendez, j'ai besoin d'un spot qui dit ça, il faut que je regarde dans ma base de données. Ah oui, il y a 7 ans, on a proposé un sujet, donc je vais faire à peu près la même chose. On va changer les acteurs, on va changer la musique, mais ça va le faire.
Enfin, » aujourd'hui, les internautes repèrent tout de suite et vous êtes...
Voilà, on a besoin d'originalité, on a besoin de sortir. Et puis surtout, on a besoin de donner du sens. C'est-à-dire, et le sens, ça peut être d'être très drôle ou d'être très impactant, ou etc. Mais on a besoin d'aller plus en profondeur. Il y a des nouveaux cadres créatifs que moi j'appelle l'expérience, qui existent et qui sont de dire, ben voilà, au-delà de faire rire, ce qui est quand même pour l'instant le métier principal d'un publicitaire, est-ce qu'on peut faire pleurer? Est-ce qu'on peut dire des choses différentes? Est-ce qu'on peut apporter de la valeur ajoutée? Est-ce qu'on peut pas trouver des nouvelles marges de manœuvre créatives qui vont au-delà de la blague? Enfin, le sujet du contenu est un sujet incroyable. Si vous regardez ce que IKEA a fait récemment, IKEA a sorti pour sa gamme de lits. Bon, on va quand même vendre des lits et des matelas, c'est pas non plus la chose qu'on
s'imagine. Des étagères aussi, même quand il y a peu de livres.
Ouais. Mais pour les lits, ils ont repris 5 artistes, ils leur ont fait rechanter des comptines très anciennes. Ils en ont fait un album sur iTunes qui s'est vendu en très grande quantité. C'est devenu quelque chose qui est rentré dans les foyers suédois. Et donc, il y a tout un mécanisme créatif qui va bien au-delà de la bonne blague.
C'est un de vos clients, Ikea ?
Oui. Mais c'est pas nous qui avons fait ça.
Alors c'est bien, vous en parlez bien. Camille Neveu, sur ce...
Je crois que vous abordez aussi dans votre livre la bataille des données personnelles. Le consommateur accepte déjà de donner son adresse, celle de ses amis, son argent en échange de valeurs et d'expériences, dites-vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ?
C'est un débat assez qui est encore dans la presse ces jours-ci. Hein, qui est assez,
le problème des cookies, on en parlera tout à l'heure.
Le problème des cookies qui est de dire, voilà, à un moment, si vous voulez profiter au mieux de services à valeur ajoutée, il faut faire un échange qui est de dire, je vous dis un peu de choses sur moi pour que vous puissiez être pertinent par rapport à moi. Parce que bien sûr, si on ne vous connaît pas, on ne peut pas vous donner des choses.
Mais la CNIL, justement, cette semaine, a critiqué et continue à critiquer l'usage des cookies, justement, qui sont au fond des espèces de mouchards qui rentrent dans votre ordinateur. Enfin, c'est plus technique que ça.
Je l'explique, je pense, d'une façon assez simple. Les cookies, c'est juste un traceur. Donc, on peut appeler ça mouchard. Mais c'est un traceur qui juste enregistre marque par marque, donc c'est pas quelque chose de collectif, il n'y a pas un Big Brother collectif qui, site par site, on va dire, enregistre votre comportement. Ils disent, cette personne, elle est intéressée par les news culturelles, elle est intéressée par ci, pour pouvoir vous apporter le bon contenu au bon moment, lorsque vous revenez. Alors, bien évidemment, lorsqu'on n'est pas très au courant de comment ça fonctionne, on peut avoir l'impression que tout d'un coup, on va savoir qu'on est allé sur un site porno, qu'on a fait des choses, etc., ce qui n'est pas vrai, d'accord ? Et que cette information pourra être exploitée, envoyée à votre belle-mère ou quelque chose de ce type-là. Mais c'est totalement du fantasme collectif.
Si la CNIL s'en occupe, c'est qu'ils ne font pas que fantasmer à la CNIL. Parfois, ils ont quelques raisons de s'inquiéter.
Je ne me permettrai pas de dire ça. Mais néanmoins, je pense qu'il y a des sujets qui sont nettement plus urgents que d'essayer de brider le développement de l'industrie digitale en France. Mais sincèrement, le sujet des cookies est un totalement faux sujet. En termes de menace de la vie privée, puisqu'en fait les cookies restent anonymes, on ne sait pas qui est derrière, on ne sait pas et on n'a pas le droit de le savoir, et en plus on n'a pas de façon de le savoir. Donc globalement, on est quand même très très loin du danger de vie privée. Un cookie, c'est un numéro. Donc moi, je peux vous dire, j'ai des bases de cookies chez nous en grande quantité, on s'en sert industriellement, et il y a un numéro 122B12, et on sait que 122B12, il a plutôt des enfants parce qu'il a acheté des vêtements pour enfants, et qu'il achète plutôt en solde. Voilà. Je pense que la République est menacée.
Alors, vous avez mis dans votre livre partout des cookies, justement. Sur chaque chapitre, il y a un code barre. Donc, ça permet de vous retrouver, de l'acheter chapitre par chapitre. Ça sert à quoi, ces codes?
Non, le QR code, c'est un QR code pour mobile qui, en fait, sert.
Vous permet directement d'accéder.
En fait, ce que j'ai voulu, c'est avoir un livre, parce que ça cite beaucoup d'études, de chiffres de marché, de case study. Donc, en fait, on a préparé des mini-vidéos en amont où vous flashez ça avec votre téléphone. Vous mettez votre téléphone dessus, vous mettez votre téléphone au-dessus du code. Vous avez accès à une vidéo qui dure 3 à 4 minutes et qui vous donne en fait l'ensemble de l'information nécessaire pour pouvoir lire sans avoir référence à des lire sans passer sous des notes en dessous. Donc c'est un peu un livre de nouvelle génération en quelque sorte.
Le livre s'intitule « Marketing synchronisé, changer radicalement pour s'adapter aux consommateurs de l'ère numérique ». C'est signé par Marco Tinelli aux éditions Erol. Marco Tinelli, donc, qui est le fondateur et le patron de l'agence Full Six. On y revient en fin d'émission dans un débat qui sera précisément autour de Twitter. Ce sera l'occasion de revenir plus spécifiquement sur ce sujet. « Chimes of Freedom », c'est un album qui sort cette semaine. 4 CD de 2 reprises de Bob Dylan pour les 50 ans d'Amnesty International. Le lien entre l'association des droits de l'homme et le chanteur américain tombe sous le sens, écrit Olivier Nuc dans Le Figaro, avec un casting spectaculaire pour cet album. Sting, Patti Smith, Marianne Faithfull, Elvis Costello, Brian Ferry, mais aussi Raphaël Sadiq dans cette chanson reprise de Bob Dylan, Leopard Skin Pillbox Hat.
See, you got your brand new leopard skin pure box hat. Yes, I see you got your brand new leopard skin pure box hat. Well, you must tell me, baby, how your head feels under something like that, under your brand new leopard skin pure box hat. Looks so pretty, ain't it? Huh? honey, can I jump on it sometime? Yes, I just wanna see if it's really the expensive kind. You know it balances on your head just like a mattress balances on a bottle of wine. Your brand new leopard skin pill box hat. Well, if you wanna see the sunrise, honey, I know where. We'll go out and see it sometime. We'll both just sit there and stare. Me with my bed wrapped around my head, and you just sitting there in your brand new leopard skin pill box hat.
Jusqu'à 20h, vous êtes dans Soft Power, le magazine bimédia et global des industries créatives et des médias de France Culture, en direct et en live tweet sur Twitter au mot-clé Soft Power. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi consulter notre blog soft-power.fr et vous abonner au podcast. Deuxième ou troisième séquence de cette émission, nous retrouvons en direct par téléphone Delphine Minoui. Bonsoir Delphine.
Bonsoir.
Alors vous êtes correspondante permanente du Figaro au Moyen-Orient, actuellement à Beyrouth et régulièrement d'ailleurs sur France Culture. Ce soir, pour évoquer d'un point de vue des médias et aussi des réseaux sociaux, l'information concernant le conflit tout proche à la frontière, à moins d'une heure de route de Beyrouth donc à Damas, en Syrie. Mais peut-être juste avant d'évoquer le rôle des médias, on en est où? Quelle est la situation aujourd'hui, notamment avec une sorte de tournant, hein, me disiez-vous tout à l'heure au téléphone, avec de nouvelles manifestations, 9 mois après, 9 mois déjà de répression à Homs, une insurrection qui date de mars 2011.
Oui, un nouveau cap en effet en ce moment même à Damas, puisque les Syriens avec qui j'ai encore pu m'entretenir aujourd'hui évoquaient de nouvelles manifestations dans la capitale. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et ça remonte à il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire vendredi, où tout d'un coup, eh bien, la révolution anti-Bachar al-Assad a déteint sur cette capitale qu'on pensait acquise à la cause du régime. Jusqu'à présent, c'est vrai, la mobilisation, elle était essentiellement cantonnée aux provinces. Et puis là, tout d'un coup, ce week-end, il y a eu des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de la capitale. Et c'est vraiment la preuve d'un ras-le-bol général, c'est-à-dire un ras-le-bol d'abord contre cette violence du régime, que la répression qui dure depuis 11 mois, elle a fait au moins 6000 morts, d'après les organisations de défense des droits de l'homme. Et puis c'est aussi, il faut le rappeler, le cri de désespoir d'une population qui commence à vraiment étouffer économiquement. On parle de pénurie alimentaire, on parle aussi de grandes coupures d'électricité, et ça c'est inédit dans la capitale, à Damas.
Comment est-ce qu'une journaliste comme vous, et plus globalement les médias occidentaux ou internationaux, s'informent dès lors qu'il y a aujourd'hui très peu de correspondants occidentaux dans le pays? On se souvient de la disparition, du décès de notre confrère Gilles Jacquet de France 2 le 11 janvier dernier à Homs. Très peu de correspondants. Sur quelle source, quel type d'informations fiables pouvez-vous utiliser pour savoir ce qui se passe?
Oui, c'est vrai, on ne le rappellera jamais assez. Le travail journalistique en Syrie est aujourd'hui rendu très, très difficile. Je dirais qu'il y a 3 moyens de s'informer aujourd'hui. Il y a d'abord le canal officiel, tout simplement, c'est-à-dire la télé d'État qui diffuse la propagande du régime, qui présente en permanence les protestataires, les manifestants, comme des terroristes, des gangs armés qui agissent à la solde d'Al-Qaïda. Il faut ajouter à ça des visas qui sont délivrés au compte-gouttes par les autorités, et qui permettent à certains journalistes de rentrer dans le pays, donc de façon très cadrée, puisque ce sont des voyages organisés. Et puis, bien évidemment, le système ne montre que ce qu'il veut bien montrer, c'est-à-dire sa vérité, qui est très très loin de la vraie vérité de la situation aujourd'hui en Syrie. La deuxième option, c'est le reportage clandestin. Il y a pas mal de journalistes en ce moment qui se trouvent dans cette ville de Homs, dont on parle beaucoup en ce moment, la ville rebelle, le berceau de la révolution. Ces journalistes, ils rentrent par la frontière grâce à des passeurs. Ils passent souvent soit par le Liban, soit par la Turquie. C'est un travail à haut risque, puisque vous êtes livrés au combat et vous passez aussi de main en main sans savoir vraiment où vous atterrissez. Et puis la troisième solution, qui est l'option qu'on utilise en grande majorité, c'est tout ce flux de vidéos qui sont réalisées par des journalistes syriens, des jeunes journalistes syriens très très courageux qui parcourent toutes les villes. Et ces images, eh bien, ils les postent sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et c'est grâce à ça que nous pouvons, au quotidien, continuer à nous informer sur ce qui se passe, non seulement à Damas, la capitale, mais également à travers tout le pays.
Alors Delphine Minoui, je rappelle que vous êtes en direct de Beyrouth et que vous êtes correspondante du Figaro Moyen-Orient. Vous avez suivi, étudié, regardé de près pour un certain nombre d'enquêtes ces journalistes indépendants, citoyens clandestins, donc de terrain en Syrie, qui travaillent sous le manteau, via Skype, postent leurs vidéos sur YouTube. Comment ça marche je pense notamment sur Internet au journal en ligne qui s'appelle Souria Bada Huria, la Syrie veut la liberté, c'est le nom du journal. Où est-ce qu'il est mis en ligne? Comment est-ce que l'information sort et comment elle est protégée d'une certaine manière?
En fait, c'est un nouveau magazine qui a vu le jour il y a quelques mois et qui est tout à fait emblématique, je pense, de cette nouvelle expérience démocratique que sont en train de vivre les Syriens à travers les médias, à travers tout ce qui peut se passer sur Internet. En fait, c'est une vraie pépinière de jeunes journalistes qui ont grosso modo entre 19 et 30 ans, qui habitent sur place en Syrie, qui vivent dans différentes villes, parfois des villages, et qui se chargent de faire des reportages au quotidien. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont très très professionnels. On pourrait s'attendre à quelque chose de très des reportages très côté très amateur, mais pas du tout. Il y a toujours des sources qui sont citées, des lieux qui sont bien précis. Ce sont les porte-parole en fait de la population syrienne. Ils racontent les morts dans les rues, les blessés, les familles qui ont du mal à se nourrir, qui ont du mal aussi à communiquer entre elles d'une ville à l'autre. Et donc ces jeunes journalistes ensuite se connectent sur l'Internet grâce souvent à des petits systèmes satellitaires clandestins qu'ils ont fait rentrer en Syrie pour éviter les remontrances du régime. Ils se connectent souvent la nuit, discrètement. Ils postent leurs articles et ces articles après sont envoyés à des Syriens qui se trouvent à l'étranger. Ça fonctionne vraiment par réseau. Il y a une pléthore de Syriens aujourd'hui, des activistes, des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes, qui sont installés à Dubaï, en Égypte, en Jordanie ou encore au Liban, ici où je me trouve. Et ces gens-là donc retraitent l'information, font un peu de l'editing, retravaillent les textes, y ajoutent des photos envoyées également par d'autres cyberjournalistes qui travaillent sur place en Syrie. Et puis, ils mettent tout ça en forme et ça donne donc un magazine assez impressionnant. Hein, il suffit de regarder sur leur site web aujourd'hui avec des textes, du reportage, des textes d'analyse également. Et puis, pour les Syriens qui sont dans le pays et qui n'ont pas accès, parce qu'il faut rappeler qu'il y a beaucoup de Syriens qui n'ont tout simplement pas accès à l'Internet, eh bien, il y a tout un système, un peu une école de la débrouille, puisque certains journalistes vont s'amuser à photocopier, en fait, à imprimer et photocopier les articles, et ils vont les distribuer sous le manteau, derrière les comptoirs des échoppes, les épiceries, etc., pour que, encore une fois, les Syriens soient informés de leur propre situation, de leur propre histoire, l'histoire en marche, toute cette actualité qui se passe en ce moment en Syrie.
Pour terminer, Delphine Minoui, parlons peut-être de la télévision aussi, et notamment d'Al Jazeera, dont on sait le rôle déterminant qu'elle a joué dans les révolutions tunisiennes, égyptiennes, en Libye. Quelle est l'attitude d'Al Jazeera en Syrie, compte tenu de la complexité politique des rapports entre le Qatar et la Syrie, aussi avec l'Iran notamment, chiite, et aussi la différence finalement fondamentale entre deux Al Jazeera, le Al Jazeera en anglais que nous voyons et que nous comprenons, et puis l'Al Jazeera en arabe qui diffuse des informations parfois différentes.
Oui, Al Jazeera en effet depuis maintenant plus d'un an, hein, depuis le début de la révolution tunisienne qui a inspiré les autres pays de la région, eh bien c'est devenu, je dirais, le vrai vecteur, hein, de ces révoltes, de ces cris qui s'expriment contre les dictatures en place qui sont tombées les unes après les autres. Mais c'est vrai qu'il faut quand même faire la distinction, en effet, entre ces deux chaînes Al Jazeera qui sont très différentes. Donc la chaîne en arabe, je dirais que c'est quasiment, et d'ailleurs le Qatar ne s'en cache pas, c'est l'arme médiatique de Doha, avec quelque part derrière aussi une sorte d'agenda politique, puisque ça rentre également dans cette espèce de lutte qu'on connaît dans cette région entre le groupe des sunnites, les musulmans sunnites, contre les musulmans chiites. Donc c'est tout à fait dans leur intérêt, en effet, de défendre aujourd'hui la révolution syrienne, puisque c'est la révolte d'une population à majorité sunnite contre une minorité alaouite qu'on connaît proche de Téhéran, de la République islamique d'Iran, mais aussi du Hezbollah libanais. Et puis, d'un autre côté, vous avez Al Jazeera en anglais, qui est beaucoup plus, je dirais, qui diffuse des programmes beaucoup plus objectifs, sans parti pris, sans talk-show tonitruants qui vont défendre à tout va la politique sunnite. Et là, ces programmes sont plus destinés, je dirais, à une audience internationale. Ils sont très intéressants à regarder, à suivre. Nous-mêmes, les journalistes, très souvent, on se connecte sur Al Jazeera pour aller à la source de l'information, puisqu'Al Jazeera a des moyens techniques impressionnants. Cette chaîne est en contact direct avec ces fameux cyberjournalistes qui sont sur place, en Syrie, à travers le pays, et qui disposent maintenant de moyens suffisamment sophistiqués pour pouvoir filmer dans les rues, dans les manifestations, en direct, de leur téléphone portable, ce qui est en train de se passer. Et au même moment, tout ceci est retransmis sur la chaîne Al Jazeera, et ça, c'est vraiment impressionnant.
Delphine Minoui, correspondante du Figaro et de France Culture, notamment au Moyen-Orient, depuis Beyrouth. Merci infiniment pour l'ensemble de ces informations sur le rôle des médias, notamment, et de l'information, en l'occurrence, dans la guerre civile et en l'occurrence, la guerre tout court à Damas, en Syrie. La Syrie qui, d'ailleurs, contre-attaque fortement sur le plan médiatique et numérique, en particulier contre les médias occidentaux, que ce soit CNN, la BBC ou France 24, mais aussi, surtout, contre la chaîne, on le disait, Qatari Al Jazeera, qu'elle accuse de désinformation et de manipulation. Des hackers pro-régime ont par exemple réussi à intégrer sur le site d'Al Jazeera un message de soutien au président Bachar al-Assad sur la page dédiée à la couverture des événements syriens, le Syria Live Blog. Et puis la chaîne pro-Bachar al-Assad, Adounia TV, n'a également pas hésité dès septembre dernier à faire un reportage par exemple de plusieurs minutes sous-titré en anglais et diffusé sur YouTube qui affirme qu'Al Jazeera aurait mis en place de gigantesques décors à un essor de village Potemkin. Les images diffusées par la chaîne de la chute de la capitale libyenne et des révoltes syriennes ne seraient donc que du cinéma. On le voit, tout ça mérite décryptage et analyse, et nous continuerons à le faire dans cette émission régulièrement, ainsi que sur notre blog soft-power.fr. The day that the rains came down. Une jeune chanteuse allemande d'origine nigériane, Ayo, qui rend hommage à Gilbert Beco, ça c'est du soft power, mais un hommage en anglais, The Day the Rains Came Down, un album sorti tout récemment, Ayo, qu'on aime tant ici à Soft Power. France Culture, 19h39. Je reçois maintenant Benoît Raphaël. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes l'ancien cofondateur et rédacteur en chef du Poste.fr, reconverti depuis en en consultant médias sociaux. Et c'est vous qui êtes reconverti, pas le poste, bien que lui-même soit reconverti en Huffington Post. Vous avez participé aussi au lancement du Lab, nouveau site web politique d'Europe 1. Et vous avez aussi conseillé Le Parisien aujourd'hui en France. Ou encore le Nouvel Obs dans le lancement de Le Plus. On peut également vous retrouver régulièrement sur votre blog, La Social Newsroom. Alors Benoît Raphaël, peut-être pour commencer, c'est quoi, des gens ont plaisanté tout à l'heure sur Twitter parce qu'on ne savait pas quel était le titre qu'il fallait vous donner. Vous êtes consultant médias sociaux, spécialiste en médias sociaux, créateur de médias sociaux.
Je ne sais pas si ça intéresse grand monde.
Non, mais c'est l'idée de tous ces nouveaux métiers dont on ne sait pas toujours les qualifier, en fait.
Oui, quand j'ai quitté le monde interactif et le poste pour devenir entrepreneur et lancer mes propres projets, donc il faut les financer. Donc on fait du consulting et puis on lance des produits, on lance des projets. J'en lance un nouveau cette année. Et donc ça fait de moi un créateur de médias sociaux puisque je crée des projets pour les marques, notamment les médias comme Le Nouvel Observateur, pour Arte très prochainement. Et pour Radio France.
Ah ben voilà,
on va lancer quelque chose pour.
Alors pourquoi est-ce que pour des médias aussi puissants et importants que Le Monde, que Le Parisien, que Le Nouvel Obs, que Europe 1, pourquoi faut-il ajouter à ce travail qui fonctionne, qui marche, qui a une audience, faut-il ajouter à côté un site comme Le Poste à l'époque, Le Plus, Le Lab? Quelle est la logique de cette démultiplication au fond des sites?
Je crois que Marco l'a dit tout à l'heure, il faut changer la relation qu'on a aujourd'hui avec
Marco Tinelli de Full Six.
Marco Tinelli, tout à fait. Il faut changer la relation qu'on a aujourd'hui avec les utilisateurs. On est dans un monde de moins en moins vertical et je crois que les médias aujourd'hui, alors parfois pour de mauvaises raisons, en se disant, beaucoup se disent il y a les réseaux sociaux, donc il faut qu'on devienne social et on va faire beaucoup de choses avec. Parfois pour de bonnes raisons, essaye surtout de créer un nouveau lien beaucoup plus fort entre la marque. Et la marque, ce n'est pas un gros mot même pour un média, hein, parce que ça peut aussi être une marque engagée, entre la marque et les utilisateurs qui vont à la fois de favoriser le business model aussi du média, évidemment, en étant beaucoup plus présent, beaucoup plus fidèle, et puis en même temps apporter une qualité de contenu nouvelle, puisque les internautes ne sont pas des lecteurs lambda, chaque internaute peut être un expert également, et donc on peut comme ça raviver et donner beaucoup plus de qualité au contenu en les faisant interagir.
Ça voudrait dire au fond que les médias dont on parlait, que ce soit Europe 1, que ce soit le Nouvel Obs ou d'autres, sont ce qu'on appelle top-down, c'est-à-dire au fond avec un émetteur et puis des gens très nombreux ou pas qui écoutent. Et là, ce que vous proposez, c'est au fond le système inverse, c'est-à-dire le bottom-up, ça part du bas, ça part des communautés, ça part des internautes et ça va vers le haut, quitte d'ailleurs à finir en une, en home du site légitime.
Alors c'est moins le cas pour des radios, puisque effectivement la radio très naturellement est déjà dans la conversation. Est déjà dans la communauté. Et cette notion de communauté, de toute façon, n'est pas vraiment non plus ancienne. Les médias se sont toujours inscrits dans les communautés. Moi, je viens de la presse locale où, quand il y avait le Tour de France...
Pas nouvelle, vous voulez dire.
Tout à fait. Et quand il y avait le Tour de France et il n'y avait pas encore Internet, les quotidiens régionaux affichaient les résultats du Tour de France sur la porte du journal. Les gens se rassemblaient pour en discuter devant la porte. Donc, quelque part, je crois que l'information a toujours été sociale. Et sociale dans le sens de médias sociaux. C'est-à-dire qu'elle a toujours permis aux gens de se rencontrer et d'en discuter. Donc la valeur sociale de l'information a toujours été importante. On l'a un petit peu perdue, effectivement, avec l'arrivée de la télévision. Et quelque part, ça s'est un petit peu, je dirais, cristallisé. Et ça a réexplosé à nouveau avec l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux. Et les médias, aujourd'hui, s'en emparent.
Lorsqu'on regarde les sites que j'évoquais, on observe la multiplication des community managers au sein des rédactions web, des groupes médiatiques. Comment vous analysez ce phénomène ?
C'est assez utile. Par exemple, Huffington Post a récupéré le community manager du Poste pour aller récupérer toute la communauté qui est extrêmement active sur le Poste.
Ce qui lui permet d'avoir toute une audience assez forte.
Ce qui fait que dès le premier jour, il y avait déjà des centaines de commentaires parce que la communauté s'est déversée en fait. Et là, il a fallu un community manager qui connaissait bien la communauté et qui
qu'elle ne soit pas trop surprise de cette sorte
Elle était forcément surprise. Elle était un peu orpheline aussi, donc il a fallu la faire basculer. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un community manager. Ils sont allés chercher la community manager.
Du poste au Huffington Post, au fond, il y a juste un mot qui change de plus.
C'était... Non, parce que la mécanique est complètement différente et ce n'est pas du tout la même histoire. J'ai souvent fait l'éloge du Huffington Post pour plutôt me réjouir de son arrivée en France.
Vous n'étiez pas orphelin, vous, de la mort du poste que vous aviez contribué à créer ?
Non, parce que comme Internet, le monde change et qu'au contraire, là, c'est plutôt une transition que je trouve, que je trouve assez intéressante. Et justement, le community manager devenait très important parce que c'était cette personne-là qui avait créé un contact pendant plusieurs mois avec les internautes, en discutant, en contrôlant aussi un petit peu les choses. Et donc, ce rapport-là, ce lien-là, devient de plus en plus important chez les médias.
Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ce phénomène s'amplifie énormément et qu'au fond, il n'y ait plus de nouvel Obs, mais seulement le Plus, il n'y ait plus de Parisien Aujourd'hui, mais juste son site, Europe 1 devient le Lab, etc. Comment est-ce que vous voyez la répartition? Est-ce que ça va se stabiliser
Non, parce que je crois que l'erreur, c'est de séparer les choses. Le Nouvel Observateur, par exemple, s'est pas contenté du Plus, il a doublé son trafic en un an, en partie avec le Plus, mais aussi en réactivant ses journalistes, en ne devenant plus simplement la partie internet du magazine. On a beaucoup travaillé pendant un an sur la fusion des rédactions et en remettant à la une les grandes signatures du Nouvel Obs, en mettant leurs photos, leurs signatures, et ça crée aussi également un lien très fort. Donc c'est pas forcément on dévalue la marque en essayant tout prix de faire participer tout le monde, c'est au contraire, on reste une marque forte avec des signatures qui s'engagent, avec des noms, des photos, et puis on fait participer les gens parce que c'est de la conversation.
Pour terminer, pour parler un peu de vous, Benoît Raphaël, qui avait cofondé le Poste.fr et avait participé entre autres au lancement du Lab du Plus et qui tenait un blog, notamment la Social Newsroom. Vous êtes aussi en train de mettre en place en France une structure, Rêve Square. Un mot sur ce projet?
Alors, rapidement, c'est une structure américaine qui travaille depuis, qui ne s'appelait pas comme ça d'ailleurs, mais qui travaille depuis plusieurs années aux États-Unis, qui a travaillé avec le New York Times, la chaîne Showtime et un certain nombre de marques. Et l'idée, c'est d'apporter une expertise média à la fois aux médias, innovante à la fois aux médias évidemment, mais aussi aux marques qui de plus en plus aujourd'hui deviennent médias. Et on parlait tout à l'heure effectivement de cette révolution dans les marques. Je crois qu'on est en train d'assister à une prise de contrôle des utilisateurs des marques et donc d'un besoin pour les marques de travailler la relation avec les consommateurs et les utilisateurs. Et donc petit à petit, les marques rentrent de plus en plus dans des logiques de médias qui sont assez différentes des logiques des Mad Men des années 50-60.
Dans un instant, on parle de Twitter et vous restez avec nous pour évoquer le débat autour de Twitter sur ses aspects. Juste avant, Kobe Onyame, Nobody's Fault But Mine, c'est la faute de personne sauf la mienne, une version hip-hop inspirée d'un vieux gospel traditionnel.
Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die and my soul be lost,
if I'm gone,
nobody's fault but mine.
I did it my way.
Nobody's fault but mine. I'll tell you if I die right now or if I ride, it's mine. My own doing, my own screwing. My own hard work I put in every day through and through. My own hustle, my own tussle. I fight life to the death with a small muscle. You best buckle up while I take you through this life of a young buck. And can't nobody hold back this young chuckle.
Nobody's fault.
I am what I am and I stand where I stand and it's
nobody's fault.
If I die right now, if I ride it, it's
nobody's fault.
In my lifetime, yes. I've stayed on my grind, yes.
Nobody's fault.
France Culture, 19h48. Le débat, comme chaque semaine, ce soir, le débat autour de Twitter dans différents de ses aspects, modèle économique, filtrage, ainsi que son rôle à l'international. Et puis la manière dont l'information s'y déroule et s'y démultiplie. Vous parliez tout à l'heure, Marco Tinelli, fondateur de l'agence Full Six, de l'accélération de l'accélération. Au fond, il y a une dizaine d'années, ont été créés Google et Wikipédia, hein, qui datent de 2001, je crois. Donc c'est relativement récent, 7 ans, Facebook et YouTube, donc on aurait été ensemble, on n'aurait même pas évoqué ces objets-là il y a 7 ans, et pourtant aujourd'hui c'est permanent dans nos vies, et il y a seulement 3 ans pour Twitter. Donc Twitter, c'est pas le dernier venu, le nouveau venu, il y en a d'autres, il y a tout un tas d'autres médias sociaux, mais Twitter c'est particulièrement rapide. Alors Benoît Raphaël, vous avez publié justement sur votre blog la Social Newsroom la semaine passée un article qui décrypte le fonctionnement de l'information par rapport à la mort, bon c'est un exemple parmi d'autres, la mort de Whitney Houston, qui démarre par quelqu'un comme ça qui en a entendu parler, puis un deuxième, etc. Ce type d'analyse a été faite aussi lors de l'information sur l'affaire du Sofitel avec Dominique Strauss-Kahn ou sur tout un tas d'événements planétaires comme ça. Que constatez-vous dans cet article qui s'intitule « Mort de Whitney Houston, comment Twitter a encore, entre parenthèses, échappé aux médias ?»
Alors, Twitter a échappé aux médias. Pour autant, ce n'est pas Twitter qui a provoqué, qui a été le démarrage de l'information. Ce qu'on constate, pour reprendre l'histoire de Whitney Houston, c'est qu'effectivement, à 4 heures, donc quasiment une heure avant que les médias commencent à parler, 4 heures de l'après-midi, heure locale là-bas.
4 heures du matin, donc.
4 heures de l'après-midi là-bas.
Donc chez nous, c'était voilà. Très.
Donc ça vous enlevait 9 heures, c'est en Californie. Vous rajoutez 9 heures, pardon.
Absolument.
Je ne ferai pas le calcul.
Mais c'était pendant la nuit en France.
2 heures du matin.
C'est ça, tout à fait. Bah oui, parce que 9 heures en plus. Et donc là, une personne sur Twitter se pose la question de savoir si Whitney Houston est morte.
Mais sans Is Whitney Houston really dead? Ouais. C'est Brittany G. Pullar qui sort ça, donc ouais. La première, 4h15. Ensuite, Aja Dior dit Oh my God, my aunt Tiffany, donc sa tante, qui travaille pour Whitney Houston, l'a trouvée morte dans sa baignoire. Dit-elle sur Twitter. Donc là, on est un tout petit peu après.
Et ce qui est intéressant, c'est que là, pour l'instant, les médias n'ont pas encore repris. Hein. Ils reprendront un petit peu plus tard. C'est l'agence américaine AP qui va faire le premier tweet là-dessus. Donc personne ne reprend vraiment. Alors,
Britannie, parce qu'il y a besoin de la légitimité que va donner l'agence, finalement, malgré
tout. Oui, mais c'est aussi parce que ces gens-là ne sont pas forcément beaucoup suivis sur Twitter, n'ont pas forcément la légitimité. Alors Brittany, elle naviguait un petit peu dans les clubs à Hollywood. Donc elle était plus perméable aux rumeurs ou aux informations qui pouvaient circuler. Et par contre, la deuxième est simplement une simple citoyenne américaine dont la tante, par hasard ou par malheur, travaillait pour Whitney Houston. Donc, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on commence à avoir des vraies marques.
Des empreintes, elle vous dit dans l'article, des empreintes en temps réel pour capter plutôt les soubresauts de l'histoire.
Oui, parce que finalement, c'est un petit peu comme un papier photographique. C'est-à-dire que de plus en plus, Twitter, qui est devenu un canal, un espace public d'expression, beaucoup plus que Facebook d'ailleurs, même s'il y a moins de monde, va capter comme ça les expressions, parfois les témoignages des gens qui disent « j'ai vu, j'ai entendu », mais qui ne sont pas forcément vus et entendus par les autres, puisque très souvent, ils ont très peu de ce qu'on appelle des followers, des abonnés. Mais par contre, c'est un fil assez neutre qui est en train petit à petit de prendre l'empreinte de l'histoire. Alors encore grossière, parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de monde sur Twitter, mais ça commence à jouer ce rôle-là. Et le rôle et la question pour les journalistes, c'est qu'à quel moment on arrive à détecter ces informations-là, puisqu'elles
apparaissent. À quel moment c'est fiable aussi. On peut donc les relayer sans crainte d'un fake, comme on dit, c'est-à-dire d'un faux.
Bah là, le travail du journaliste, c'est justement d'aller vérifier. Je pense que
d'où l'agence, la dépêche d'agence qui sort. À partir de là, tout le monde relaie.
Oui, mais qui n'a pas fait par rapport au tweet, puisque d'ailleurs l'information concernant la salle de bain est intervenue 24 heures plus tard.
Donc là, la première information était vraie, mais elle ne sera confirmée que bien plus tard.
Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a un tweet avait précédé l'information, comme pour la mort de Oussama Ben Laden, où il y avait un témoin qui était dans les parages et qui a été le témoin de l'opération militaire. Il a vu les hélicoptères arriver, mais personne quasiment ne l'a repris. Là. Ça a beaucoup plus fonctionné quand c'est un proche de Donald Rumsfeld qui, lui, avait eu l'information avant les médias et a tweeté parce que lui était beaucoup plus crédible. Il y avait beaucoup plus d'abonnés.
Camille Neveu, alors sur Twitter, pour évoquer maintenant un autre aspect, Twitter, on a du mal à comprendre le modèle économique d'un site de micro-blogging comme celui-là.
Je crois que l'entreprise elle-même aussi se pose cette question qui est une question cruciale. En fait, le problème, alors Twitter est actuellement valorisé à 8 milliards de dollars, un petit peu plus, et son gros problème, c'est aujourd'hui comment insérer de la publicité et générer des revenus sans faire fuir les tweetos, qui sont donc les utilisateurs de Twitter. Alors, Alors aux USA, le nombre d'annonceurs présents aurait été multiplié par 7. En France, on n'en est pas encore là. Je crois que Bouygues s'est mis aux tweets sponsorisés. Certaines stars aussi sont payées pour promouvoir un produit. La grande question, c'est comment faire de la publicité sur Twitter ? Est-ce que vous
Alors, Marco Tinelli, est-ce que vous avez la réponse ? Comment insérer la publicité sur Twitter ?
J'y pensais ce matin, on a bien sûr la réponse.
Dans votre baignoire, oui, vous aussi.
Exactement, je dis, tiens, voilà, on va sauver Twitter. Je pense que le Twitter n'a pas été conçu à l'origine pour avoir un business model. Ils essaient aujourd'hui face au... Bah, ça arrive. Enfin, c'est,
c'était voilà. Philanthropique, alors.
C'est passé non, par mais son succès
on aujourd'hui. Est typiquement dans une techno qui a été prise par les gens, poussée, ça a pris des grosses proportions, mais ils étaient, je pense qu'ils ne s'attendaient pas eux-mêmes à avoir un tel succès. Donc aujourd'hui, Facebook a mis quand même beaucoup de temps à avoir un modèle de revenu qui n'est pas toujours très, très clair aujourd'hui, d'ailleurs. Et sur Twitter, je pense qu'on voit des marques qui s'en servent exceptionnellement bien en termes de service. Je pense que toute la partie service est très utile aux marques. Donc Best Buy a fait des choses qui sont absolument incroyables. Les gens peuvent poser des questions, les vendeurs en magasin répondent en temps réel. Donc il y a cette impression que l'ensemble de la communauté des vendeurs Best Buy répond en temps réel aux questions de high-tech des consommateurs. Donc du coup, les gens viennent en magasin pour acheter. Mais je ne vois pas très bien où Best Buy... pour Best Buy, c'est extrêmement clair. Pour Twitter, ce n'est pas hyper clair parce qu'ils gagnent de l'argent. C'est-à-dire que c'est utile à Best Buy, mais non facturé à... Twitter. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des idées qui ressortent sur comment est-ce qu'on peut exploiter les messages des gens pour que eux, sous réserve qu'ils soient d'accord, bien évidemment, reçoivent des offres commerciales en fonction de ce qu'ils tweetent. Typiquement, je tweete que je prends l'avion pour aller à New York. Est-ce que j'ai besoin de services ?
American Airlines se joint à la discussion et vous propose comme par hasard un vol.
Ou peut vous dire, dans ce cas-là, est-ce que vous avez besoin d'un taxi à l'arrivée ? Il peut y avoir des business models qui disent il y a quelqu'un qui se plaint de votre service, donc payez-moi, je vous dis qui c'est, et vous le rappelez en disant je suis désolé, on n'a pas livré à temps. Il y a des modèles de ce type-là, mais sinon pour l'instant c'est pas hyper clair.
Alors troisième sujet lié à ça, des comptes parodiques de Nicolas Sarkozy sur Twitter ont été désactivés hier, certains comptes sur Facebook aussi, dit-on. Alors notamment c'est le cas de Ma France Forte, le cas de Forte France, ou encore de Sarkozy ça suffit, tout ça sur Twitter. Comment est-ce que vous analysez cela, Benoît Raphaël ? Est-ce que c'est au fond le problème de l'usurpation d'identité qui est reproché ?
Là, c'est un peu difficile à dire parce que c'est pas une usurpation directe de l'identité, donc je pense qu'il y a encore débat par rapport à ça. Par contre, ça revient et ça en revient à ce qu'on disait tout à l'heure et ce que disait Marco tout à l'heure, c'est que Twitter n'est plus tellement maintenant une entreprise privée, ça devient un espace public qui est de plus en plus utilisé, qui a même été utilisé lors des révolutions arabes, qui garde une trace de l'histoire également. Est-ce qu'on peut encore laisser ça entre les mains d'une entreprise privée ? C'est une vraie question. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, en tout cas, je trouve que c'est une vraie question aujourd'hui.
On pourrait conclure par une phrase qui pourrait s'adapter au fond à Twitter, mais aussi à d'autres sujets dont on a parlé dans cette émission. They are not afraid by success. C'est la phrase que je retiens du film La Dame de Fer, sorti ce mercredi. Phrase prononcée par Margaret Thatcher à propos des Américains. Ils n'ont pas peur, pas d'aversion, pas de méfiance pour le succès. On se quitte justement avec la musique originale du film composé par Thomas Newman, Statecraft, BO du film La Dame de Fer. Bande originale donc de ce film avec formidable Meryl Streep qui incarne et sauve même peut-être ce film un peu lourdingue. C'est d'ailleurs moins un film sur Margaret Thatcher qu'un film sur la vieillesse et la maladie, la lente et longue démence de La Dame de Fer. Soft Power, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à Avenue Q, le nouveau théâtre de Broadway. Merci à Marco Tinelli de l'agence Full Six et qui publie Marketing Synchronisé chez Erol. Merci à Benoît Raphaël, Camille Neveu, Delphine Minoui, Soft Power avec Mathias Meji, Aziz Ridouan et Théo Corbucci. Promotion musicale ce soir, Christian Charles à la régie, Emmanuel Morse d'Uncan. Soft Power, une émission de Frédéric Martel réalisée par Vincent Abouchard.